Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette troisième heure d'été classique. Nous allons la consacrer à Theodor Kourentsis, ce chef né à Athènes en 1972, mais installé en Russie depuis le début des années 1990, où il a commencé ses études de direction au Conservatoire d'État de Saint-Pétersbourg, sous la tutelle d'Ilian Mouzin. Theodor Kourentsis, l'enfant terrible du classique, a fondé en 2004 et dirige l'ensemble et le chœur Musica Eterna. Il a longtemps officié à Perm, petite ville de l'Oural, et est actuellement directeur musical de l'orchestre symphonique de la SVR de Stuttgart. Musicien décapant, ne reculant devant aucune prise de risque afin de créer les conditions d'un choc musical, nous lui consacrons toute cette semaine cette série qui fera alterner des extraits de sa discographie avec des œuvres données en concert. Le premier adjectif qui me vient au sujet de Theodor Kourentsis, c'est atypique, un trait que le chef cultive jusqu'à l'excès, mais qui fait se pâmer le monde musical. En effet, comment attirer l'attention sur soi quand on dirige l'opéra de Novosibirsk, In the Middle of Nowhere, Novosibirsk et Perm, deux endroits rêvés, selon lui, pour travailler quand on ne compte pas ses heures. C'est un paramètre assez appréciable quand tous les autres chefs sont obligés de faire avec des règles. Pour le reste, son look de dandy gothique fait bien évidemment le buzz dans les médias, mais nul n'est obligé de discerner sur la longueur de la mèche de cheveux, même si elle paraît très étudiée. En fait, il me paraît plus important de nous concentrer sur ce qu'on entend vraiment. Est-ce si différent que nous soyons en mesure de retrouver l'extase, comme il le dit lui-même? Sans aller jusque-là, le postulat de se méfier des habitudes et des environnements sonores est tout à fait légitime pour partir en croisade contre l'abus de nos sens. Alors en route pour cette première heure à passer en compagnie de la discographie de Theodor Kourentsis, elle commence tout de suite avec le début de Didon aîné de Henry Purcell, où ceux qui connaissent cette œuvre vont voir dès les premières mesures qu'un vent de fraîcheur soufflait sur cet opéra, et pas seulement parce que les répétitions et l'enregistrement eurent lieu à Novosibirsk.
Shake the cloud from off your brow. Increases my conceit.
My defense of no revealing.
Then let me speak. A Trojan guest into your tender thoughts has pressed.
The greatest bliss in it can give.
A courage to say,
feel true,
I.
The greatest bliss in it can give.
A courage to say,
stubborn heart, unmoved, could see.
Once more expire.
Pursue thy conquest, love.
passion, passion I go past, passion I go past, love. Her eyes confess the flame, her eyes confess the flame, her tongue denies. Her eyes confess the flame, her eyes confess the flame, her tongue denies. Pursue thy purpose, love, pursue thy purpose, love, pursue, pursue, pursue thy conquest, pursue thy conquest, love, pursue thy conquest, love.
To the kiss their lips, to the lust and their hearts, to the music of love, and to shed the
large extrait de Didon, aîné de Henry Purcell avec Simone Kermes en Didon, reine de Carthage, Deborah York, soprano en Belinda, sa confidente Dimitris Tilakos, baryton en aîné, un prince de Troie, New Siberian Singers, Musica Eterna et Theodore Kourensis à la direction. Vous l'aurez remarqué, âpreté dramatique exacerbée, dure, très dure, noire et même violente, l'innocente mutine du pensionnat de Chelsea où eut lieu la création de cette Didon en 1689, s'est changée en Cruella, prête à embrocher les gentils 101 dalmatiens. De la fureur et du sang, les tempi et articulations ont été profondément remodelés. Pas de doute, le regard du bad boy athénien ayant trouvé refuge au pays des soviets était novateur sur cette gravure. Alors oui, le cœur des New Siberian Singers peut paraître lourd, trop fourni dans sa verticalité empesée, mais le tout est porté par une basse continue absolument nerveuse, soutenant l'ensemble Musica Eterna au jeu haché. Vous aviez un exemple à l'instant, parfois strident dans les cordes, à la limite du soutenable. Je vous laisse découvrir la suite, tout seul, comme des grands. L'important n'est pas d'aligner des notes, mais de faire quelque chose qui vous touche, a déclaré en janvier 2016 au Figaro Theodore Kourensis. Parfaitement vrai, et tout ce que j'ai lu d'interviews sur le maître me fait penser inexorablement à ce que disait Nicolas Arnoncourt dans les années 1980, notamment dans son ouvrage Le discours musical. Un monde classique beaucoup trop tourné vers la musique du passé, ce qui fausse le rapport à la musique d'aujourd'hui que le grand public a du mal à recevoir. Du coup, il y a décollage entre une poignée accompagnée de grands mélomanes et les amateurs occasionnels qui ont du mal à entendre les prouesses de l'avant-garde. Ce qui est plus intéressant, ce sont les partis pris d'interprétation de Kourentzis. Au fur et à mesure qu'il déroule sa discographie et nous fait partager ses choix, il ne cesse de creuser les phrasés, de peser sur chaque détail. Le problème est que cette même remarque positive peut aussi avoir son corollaire négatif, pour ne pas dire maniérisque, chichiteux, outré, surexposé. Vous voyez ce que je veux dire. Pas de doute, on a affaire, comme l'a dit un critique canadien, à un obsessif compulsif de l'interprétation musicale. Le tout étant de savoir au bout de combien de réécoutes, autant d'intentions finissent par lasser. Une chose est sûre, on est dans le hors-norme. Mais le hors-norme peut-il devenir justement la norme? Rien n'est moins sûr, le chef qui se lancerait à sa poursuite serait aussitôt accusé de faire du Kourentzis. La course de crête est étroite, on le voit bien, que cela ne vous empêche pas de goûter à cette fin de la 14e et dernière symphonie de Chostakovitch, une partition qui date de 1969, 6 ans avant la disparition du musicien, une œuvre à part, un geste d'adieu d'un homme affaibli par des hospitalisations répétées et que hante l'idée de la mort. On est tout proche du chant de la terre de Mahler sur des poèmes de Rilke, Garcia Lorca et Apollinaire dans leur traduction russe.
Все стадо без пугат, побежил ты по ночке своей. Oh. was wird.
Amor nostro, ich just, ja just.
La fin de la symphonie numéro 14 de Dimitri Shostakovich avec la soprano Yulia Korpacheva, la basse Petr Migounov, Musica Eterna et Tedor Kourentsis à la direction. En 2009, Gilles Macassar de Télérama jugeait le jusqu'au boutisme de Kourentsis dans cette gravure glaçant et son intégrité abrasive. Décidément, on ne pouvait mieux dire. Dernier passage pour Kourentsis et ses troupes dans notre premier épisode d'été classique avec le Requiem de Mozart. Lors de sa sortie du CD en 2011, le critique du Forum Opéra se demandait s'il fallait crier au génie ou au fou dans cette lecture qui ne relevait ni de la lecture romantique ni de la démarche historiquement informée, bien que, là encore, le parallélisme avec Arnoncourt dans les années 1980 soit tentant. Bref, auditeurs qui cherchaient la paix intérieure avec cette lecture, vous risquez de rester sur votre faim. Les couleurs et les contrastes sont poussés au maximum. Kourentsis nous présente ici un Mozart ou pour mieux le décaper dans une démarche décomplexée, désacralisée, dont je vous laisse maintenant seul juge.
Thank you.
tronum, cogitum est ante tronum.
Ma superbit et natura, cum nisune creatura, Scriptus proferitur, in notum
Ex iustas, Oh.
Et on va laisser gentiment le Requiem de Mozart continuer sans nous, puisque si vous êtes parisien le 27 octobre prochain, vous pourrez le voir en chair et en os au théâtre de Châtelet, où Courensis et ses troupes sont en résidence pour la saison 2019-2020.